Vous êtes sur Plan B, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Karim Megherbi. Salut Karim.
Salut Cyrus.
je pense que la première fois que tu es intervenu, on n'avait pas autant de cheveux et de barbe grise, toi et moi. Il y a 3-4 ans, il me semble, et tu avais notamment fait une vulgarisation du rapport RTE qui venait de sortir à l'époque. Et sont suivis d'autres épisodes sur les sujets énergétiques qui nous occupent. Mine de rien, on va remettre les liens des épisodes précédents, ça se réécoute très bien.
Cool.
Aujourd'hui, on va parler de la COP 28, parce que tu y étais, tout simplement. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui y était. Tu vas nous raconter à quel titre tu y étais, ce que tu as vu, ce que tu as vu comme avancée, comme frein, voilà, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça avance, enfin voilà, un témoignage de l'intérieur de cette COP 28-là, donc à Dubaï. On a dit beaucoup de choses dans tous les sens sur la COP, parfois des choses approximatives, sûrement de ma part. Non, là, on va avoir un regard de quelqu'un qui l'a vécu, et on va, en dernière partie aussi, faire un bilan global des COP depuis 28 ans, ce que ça apporte, en quoi ça influe les politiques climatiques des États, et concrètement, à quoi ça sert. Voilà, je te laisse peut-être démarrer sur dire peut-être un
Super.
peu qui tu es aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore et à quel titre tu étais à la COP.
Ok, merci Cyrus. Écoute, oui, donc moi je suis un entrepreneur dans les énergies renouvelables. Je mets en relation des investisseurs avec des porteurs de projets et je me focalise sur les marchés émergents, essentiellement en solaire, éolien et plutôt des projets de grande taille qui aujourd'hui font même plusieurs centaines de mégawatts puisque en fait le marché vraiment connaît un essor très important. Et on a vu qu'avant, nos transactions, elles faisaient 20, 30, 40, 50 mégawatts. Et aujourd'hui, pour être honnête, on a même des portefeuilles qui font jusqu'à 800 mégawatts en Inde, par exemple. Donc, ça commence à être des sommes autour du milliard de dollars sur chaque transaction. Donc, c'est vraiment important.
J'en
Voilà.
témoigne, c'est énorme. Il y a beaucoup de développeurs dans ce domaine. Leur portefeuille total, c'est quelques centaines de mégawatts. Donc toi, tu parles d'un seul projet de cet ordre-là.
Oui, c'est ça, voilà, ouais. C'est ça. La France, elle fait à peu près. Bah, alors maintenant, elle fait quand même plusieurs gigawatts par an, donc ça c'est bien. Mais bon, en moyenne, on était à 2, 2, 3 par exemple, donc ouais, c'est vrai que ça va. Aujourd'hui, là, les tailles vraiment augmentent très fortement. Voilà, voilà donc ça c'est mon activité, on va dire, professionnelle. Et puis à côté de ça, j'ai des casquettes, on va dire, plus institutionnelles et associatives. On a créé une association en France qui s'appelle Avenir Énergétique. On va d'ailleurs lancer très prochainement. Enfin, une communication en fait autour de la transition énergétique, une sorte de campagne de communication autour de la transition énergétique qui va durer toute l'année. Bon, j'annonce pas tout de suite, on va faire l'annonce officielle bientôt. Et puis à part ça, je suis impliqué dans des institutions internationales, à la fois donc auprès de l'Agence internationale d'énergie renouvelable, où je représente un think tank qui s'appelle DII Desert Energy, qui est actif dans la région MENA sur l'hydrogène vert. Et donc, je les représente au sein de ARENA, ce qui s'appelle la Coalition for Action. La Coalition for Action, c'est là où il y a. Alors, je détaille un peu parce qu'en fait, il y a quand même un peu des liens avec la COP. Donc là, la Coalition for Action, c'est un endroit où. C'est le seul endroit d'ailleurs où il y a une discussion entre le privé et le public. Donc, l'ARENA, c'est le pendant un peu de l'Agence internationale d'énergie version. Plus orienté sud, en fait, pays du sud, et puis uniquement énergie renouvelable. Il y a à peu près tous les pays, quasiment tous les pays du monde qui sont représentés, pas tous encore, hein, petit à petit, mais il y a beaucoup. Et il y a une assemblée générale de ARENA chaque année. Et lors de cette assemblée générale, il y a notamment le dialogue public-privé qui est organisé justement par la Coalition for Action. Où donc nous on est d'un côté et puis il y a tous les États de l'autre et puis là ça y va quoi. Là on pose des questions et eux aussi font des remarques et voilà, on essaie de comprendre un petit peu comment ensemble on peut trouver des solutions à des points de blocage puisque là nous on est du côté privé quelque part et donc on va dire oui mais regardez dans tel pays il y a des problèmes de réseau, est-ce qu'on va développer les infrastructures ou tiens les réglementations dans ce pays-là posent un problème etc. Et donc en échange on a des ministres qui répondent ou qui discutent, etc. Donc, il y a un échange vraiment très sympathique qui a eu lieu parce que l'ambiance lors de l'Assemblée générale de l'ARENA est très sympathique. C'est
Là, tu
vraiment
parles
très
d'une sorte
relax.
de forum
Ouais,
d'échange,
bah, c'est un
ce genre
forum
de
d'échange.
tendance.
Voilà, c'est un forum d'échange. Voilà. Donc, il y a quelques forums d'échange dans l'année, en fait, qui sont comme ça. Récemment, là, il y a eu l'Agence internationale de l'énergie où il y a eu la réunion ministérielle. un accord, donc tous les ministres, qui il y a quelques jours, hein, il y a eu une réunion donc, entre les institutions internationales et les ministres de l'énergie, où il y a des discussions ouvertes hein, sur les réglementations, etc. Donc il y a quelques endroits comme ça dans l'année, et bah, l'Assemblée générale de IRENA en est un. Et au sein de cette Assemblée générale, il y a la Coalition for Action qui prépare en fait une discussion publique-privée. Et puis en plus, on a des réunions en direct, en bilatéral, avec des gouvernements pour discuter un petit peu. Bah, voilà, est-ce que par exemple, je donne un exemple, on avait discuté avec le gouvernement algérien pour dire, voilà, la filière éolienne notamment, voilà, vous faire beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire, bah, est-ce que vous voulez avoir une filière sur place? Est-ce que vous voulez qu'on construise des usines de fabrication d'éoliennes, parce que nous, on peut le faire. Si vous mettez en place ces réglementations adaptées, bah, on va construire des usines, on va créer les éoliennes sur place et on va faire tout un système, d'accord ? Donc voilà, donc ça, je fais ça. Et puis récemment, là, j'ai été élu au board, enfin, au conseil d'administration, ouais, au conseil d'administration du Global Solar Council, qui est l'association solaire on va dire mondial, en quelque sorte, qui réunit en fait les associations nationales des différents pays. Alors, c'est une petite association. La très grande association, c'est celle qui est éolienne, hein, c'est ce qui s'appelle le GWEC, donc le Global Wind Energy Council, qui là, vraiment, est une force de frappe, quelque part. Le Global Solar Council, bah, voilà, la CEO qui a été nouvellement élue, mandatée, Sonia, elle va essayer de développer, enfin, elle est très dynamique, elle va développer à fond. Et donc, suite à justement ce que j'ai vu à la COP, j'ai candidaté aussi en tant que membre du conseil d'administration. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir été élu il y a quelques jours. Donc, voilà, je suis très content.
Félicitations.
Merci.
Est-ce que c'est à ce titre-là qu'on t'a invité à la COP 28?
Alors, presque, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu, du coup, comme j'ai plusieurs casquettes, mais on se connaît tous un petit peu. Donc, moi, j'habite aux Émirats, donc j'habite à Dubaï. Donc, la COP ayant lieu à Dubaï, je ne pouvais pas rater la COP. C'était ma première COP, donc j'ai été.
Comment tu t'es incrusté alors?
Voilà, c'est exactement.
C'est ça la bonne question, plutôt que comment tu as été invité et comment tu t'es incrusté.
C'est plus la bonne question, exactement. J'ai été membre du Global Solar Council. En fait, on a discuté. Donc, quelles sont les grandes associations renouvelables, hein, les grandes associations renouvelables qui ont préparé la COP, c'est donc IRENA, d'accord, donc institutionnel mondial, international, et il y a eu le Global Renewable GRA Association, qui elle en fait réunit les associations renouvelables. Donc c'est vraiment, c'est toutes les associations. Donc,
une association d'associations.
Voilà, c'est ça. Donc, tu as l'association mondiale qui réunit les associations nationales pour le solaire, l'éolien, et puis pour d'autres, d'accord, hydraulique, biofuel, etc. Donc, tous ces trucs-là, maintenant, sont agrégés au sein d'un Global Renewable Association, tu vois. Alors, c'est pour faciliter les communications hein, auprès des institutionnels. Chacun, en fait, a son rôle, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau des COP, soit au niveau aussi, etc. Donc, il y avait donc, le GRA, il y avait IRENA, et puis il y avait le GWEC, qui est donc pour l'éolien, je ne sais pas si vous suivez, et puis il y avait pour le solaire, hein, GSL. Donc, ça, tous ces gens-là, ils ont préparé pour la COP un programme qui s'appelle le Double Down, Triple Up. Donc, le Double Down, c'est doubler l'efficacité énergétique. Donc, on peut l'interpréter comme, si tu veux, doubler les efforts de baisse de demande énergétique, hein, si on peut faire ça comme ça. Et effectivement, dans les faits, dans la documentation, c'est bien de l'efficacité énergétique. Et donc, si pour reprendre un terme français ou une ambiance française, on va dire « ouais, c'est du technosolutionnisme ». Et franchement, ça ne serait pas faux de dire que cette approche-là existe. Mais du coup, nous, en tant que Français, on peut réinterpréter ça sous forme de stratégie de baisse de demande et ça serait très bien perçu par tous les autres acteurs. Et à côté de ça, il y a le triple up qui est tripler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui nous mettrait, les deux là, ensemble, nous mettrait potentiellement sur une trajectoire bonne, en tout cas sous 2 degrés, puisque une des contraintes, c'est pour remplacer les fossiles, c'est la demande énergétique. Et donc, si tu la contrains et que tu mets plein de trucs renouvelables, enfin de décarbonés, et bien automatiquement, tu vas remplacer. Donc, ils avaient préparé ça. Et du coup, moi, j'étais avec le Global Solar Council. On a discuté avec l'ancien CEO, Gianni, et puis on s'est dit, bah voilà, je pouvais participer un petit peu aux activités sur place. Et donc, on m'a donné un badge bleu sous le Global Solar Council pour être avec tout le monde, et notamment au pavillon de Arena. Et puis, on m'a proposé de faire quelques prises de parole. Notamment avec l'Alliance internationale du solaire, qui est en fait une institution indienne, où on a discuté un petit peu du développement des énergies renouvelables dans différents pays. Et moi, j'étais plutôt sur la partie Inde, sur les parties finances, comment on pouvait financer ça. Et puis aussi intervenir sur Greening the Islands, qui est en fait les îles qui veulent faire leur transition énergétique. Et donc, voilà, je suis
Qui ont une
parti à ça.
électricité souvent bien dégueulasse au fioul.
Bien dégueulasse et bien cher. Bien dégueulasse, bien
Bien
cher,
vulnérable.
bien vulnérable. Et donc, bah, pour être honnête, malheureusement, tu peux mettre des panneaux solaires, mais si la température augmente, fatalement, à un moment, ils vont être sous l'eau.
Ah oui,
Donc, attends,
pour
bon.
les îles vraiment,
Bah
low-lying
ouais.
islands, je ne sais pas comment
Bah
dire, les
ouais,
îles à
donc ça,
tropical.
bon, voilà, c'est quand même, pour être honnête, c'est beaucoup d'émotions quand même quand on discute sur ces
Ah, bien sûr.
sujets-là, évidemment. Et donc, bon, bah, en tout cas, les îles, ce qui est intéressant, hein, donc ce qui est intéressant surtout, c'est que ça peut être des laboratoires, en fait, pour les autres, parce qu'on peut montrer, regardez, c'est possible, on peut faire un système renouvelable. Alors, peu importe le 100% renouvelable, c'est pas le sujet, mais on peut faire un
En
schéma
optimisation
décarboné.
renouvelable.
Un schéma décarboné qui fonctionne sur une île de X, etc. Et il y a des choses qui se font très intéressantes, comme la ministre de Malte qui nous a parlé de l'émission de son Green Bond via l'opérateur électrique de Malte pour financer la transition. Et donc, voilà, c'est des produits financiers intéressants, des démarches intéressantes et innovantes. Et donc, ce partage-là était vraiment intéressant. Donc voilà, c'était à ce titre-là que j'étais incrusté à COP. Voilà.
C'est très bien, c'est plutôt légitime comme manière de se taper l'incruste.
Voilà.
Non, bah, si je comprends, alors voilà, j'ai une culture faible sur ce sujet-là, mais la COP, il y a une partie négociation entre États et il y a aussi beaucoup de temps d'échange, de table ronde, de conférences, etc. Toi, qu'est-ce que, voilà, tu as commencé à en parler, mais à quoi est-ce que tu as participé, qu'est-ce que tu as vu?
Alors malheureusement, donc moi j'étais un peu déçu là-dessus, mais je connaissais pas, c'est un premier COP, hein, donc vous avez il y avait en fait les gens c'est des degrés de badge, d'accord, des degrés d'accès, tu vois. Donc moi j'avais un bon degré d'accès, mais j'avais pas l'accès total, donc j'avais pas pour avoir l'accès total, il faut grosso modo être invité par les pays en fait et être toi-même négociateur, enfin en tout cas faire partie du clan des négociations. Donc bon, ça j'ai pas vu en direct. Les négociations, donc tu peux avoir accès, donc j'ai regardé quelques interventions quand même à droite à gauche, mais tu vois, t'es pas au cœur du truc de la négociation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu es dans la zone bleue, qui est donc tu as deux zones, d'accord, tu as une zone verte dans laquelle tout le monde peut y aller, tu te balades en famille, et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a des conférences, il y a des stands, donc on a vu des stands d'ailleurs. Il y a eu quelques vidéos qui ont été faites en France sur, tu sais, on montrait par exemple des voitures volantes, tu vois, tu sais, des voitures électriques volantes, et tout comme ça. Mais en
Ou le
fait,
yacht durable, ça j'avais vu.
voilà,
Hein.
tu vois, voilà, mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, j'ai pas du tout compris en fait, hein, pourquoi ça a été présenté, parce que c'est vraiment anecdotique comparé à ce qu'il y avait dans la zone verte, où il y avait notamment, par exemple, tout ce qui est la biodiversité. Le développement enfin la protection des mangroves, comment elle joue un rôle sur le climat, tu vois, là, dans la protection, enfin, dans la limitation de CO2, comment il fallait les protéger. Et il y avait en fait toute une zone, il y avait deux zones où c'est d'un côté la terre et d'autre côté la mer. Et donc, d'un côté la terre, donc c'est tout ce qui est arbres, solutions naturelles. Et donc là, tu vois, c'est tout un circuit en fait, hein, que tu visites avec des solutions, comment protéger la nature, etc. Donc ça, c'est pour les enfants, mais même pour la famille, hein, tu apprends énormément de choses. Et puis tout ce qui est aussi du côté de la mer, donc la pêche intensive, les machins. Donc ça, c'est vraiment pour t'informer, c'est extraordinaire. C'est vraiment, bon, ça c'est à Dubaï, hein, c'est un petit peu, c'est le, comment dire, le parc d'attractions de l'information, si tu veux, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a quand même une partie qui était sur la croissance. Donc quand tu rentres, bah, donc il y a tout un, alors c'est assez long même, hein, quand tu rentres, bah, c'est fait avec des bouteilles en plastique. L'endroit est fait avec des bouteilles en plastique compressées pour montrer en fait la taille des déchets en fait, hein, qu'une société génère. Et tu as différents produits avec bah, leur composition, jusqu'où il faut aller les chercher, comment ça impacte négativement en fait l'environnement. Donc par exemple le chocolat. Hein, tu as aussi des questionnaires Q&A où tu vois, qu'est-ce que tu dois choisir entre telle chose et telle chose. Tu vois, tu as aussi tout ce qui est acidification des océans. Et puis tu as un pays, tu as une ville et puis elle est en flamme. Et donc tu dis bah voilà qu'est-ce que tu vas choisir quoi hein, quand la terre est en feu qu'est-ce que tu prends avec toi ton ordinateur ton téléphone portable ton machin tu vois donc ça interroge en fait les gens sur la façon dont leur rapport en fait avec le matériel et le fait que bah à côté de ça il y a un environnement qui devient de plus en plus difficile à vivre et que peut-être ce qui est pour nous aujourd'hui important le sera peut-être moins demain. Et qu'il faudra peut-être réfléchir à protéger justement ces choses-là. Donc ça c'est vraiment
Beaucoup
vraiment
d'espaces de
autour de...
sensibilisation de
Voilà,
nos
c'est
modes de vie,
vraiment...
la fragilité de la Terre, la préservation
Voilà,
des
donc
milieux
ça c'est
naturels.
vraiment autour de toi. Mais bon, il y a quand même des voitures qui volent, hein, donc qui volent, je
Il y
sais
a
pas
quand même
quoi,
des
mais
voitures qui volent et des yachts durables.
voilà, il y a
Et...
quand même deux, trois trucs comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, tu vois.
Ok, non, tu dis ok, l'ambiance globale est quand même dans le
Voilà.
sens de ce que tu dis.
Ouais,
L'espace est occupé
voilà.
plutôt par voilà, un
Voilà,
imaginaire
disons qu'en tout cas, tu peux
insoutenable.
trouver cet imaginaire-là et puis t'y immerger complètement. Et puis sinon,
OK.
donc après, il y a la partie bleue, hein. Et la partie bleue, c'est là où il y a à la fois la négociation et les observateurs. Donc moi, j'étais observateur. Et alors là, il se passe deux choses. Premièrement, il y a la négociation pure et dure, d'accord? Et
Ouais.
deuxièmement, il y a tout ce qui est à côté de la négociation. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement des séances de conférences où là, les ministres sont invités, etc. Donc ça, moi, j'ai participé à ça. J'ai parlé dans certains d'entre elles, comme j'ai indiqué. Mais il y a aussi des éléments de discussion en vase clos, en fait, hein, en huis clos, où là, en fait, on mobilise les négociateurs, les ministères, les gouvernements, etc. Ça peut être John Kerry qui était là-bas, etc. Que tu vois devant toi et qui passe comme ça, qui est pressé, tu vois.
C'est
Et
impressionnant
donc
quand même.
voilà. Et donc tu vas d'un groupe à l'autre, si tu veux. Donc moi, ça, j'ai pas participé à ça, non pas parce que je pouvais pas, mais parce que simplement, je me sentais pas légitime parce que j'ai pas préparé en fait les choses comme mes collègues, d'accord? Ce qui sera pas le cas l'année prochaine puisque là, maintenant, je vais préparer ça. Mais donc là, tu te retrouves vraiment à mobiliser les acteurs publics pour dire, voilà, écoutez, dans la COP, là, il faut que dans ce document, il faudrait qu'il y ait ça. Vous pouvez essayer de ratifier ça. Et donc, par exemple, pour le Double Down, Triple Up, qui était vraiment le truc clé de cette COP, hein, c'était vraiment, tout le monde en parlait, c'était le truc qu'il fallait faire, etc. Et donc, bah, voilà, il y a eu, je crois, 128 pays ou plus qui ont ratifié, en fait, ce truc-là. Cette campagne et cette proposition. Et donc avant la signature du document, bah, il s'est passé plein de choses. Jusqu'au dernier moment, bah, non, on ne voulait pas, peut-être, etc. Puis ça a été inséré, et puis finalement, ça a été signé. Et donc le document de la COP le comporte. Et donc ça, c'était une victoire pour mes collègues, dont j'admire d'ailleurs la force de l'énergie qui a été dépensée pendant cette COP. Donc ça, c'est des choses importantes parce que voilà, il y a toutes ces discussions, tous ces mouvements qui ont lieu en parallèle. Et donc, c'est un vrai lieu d'échange et de discussion entre tout le monde. Voilà.
Tu parlais de croissance et moi j'ai l'impression que en France et éventuellement un peu en Europe, mais moins, on est dans une bulle où on questionne la croissance et où on parle de décroissance. Et à mon avis, c'est tout à fait légitime, bien que ce soit un peu une bulle. Mais c'est-à-dire le sujet va jusqu'à la table des politiques, enfin au point que
Alors,
entre guillemets Bruno Le Maire se sent obligé de dénoncer la décroissance qui
non,
dans son
alors, donc,
pays, il se sent même pas obligé de le faire. Bon. Mais comment c'est, voilà, qu'on
alors,
sorte un peu de notre bulle franco-française et à nouveau je dis la
voilà.
bulle négativement. Comment tu disais un peu l'ambiance là-bas, bon bah voilà, c'est pas non
Mmh.
plus que voiture volante et yacht, c'est un peu voilà, faire un pas de côté, mais tu disais, il y a du contenu sur la croissance, oui, mais voilà. Comment est-ce que
Alors, il n'y a pas le sujet de décroissance du tout hein, qui est abordé. Actuellement, c'est pas du tout abordé. Il y a de net zéro, des trajectoires climatiques, des politiques climatiques. Donc, ce n'est pas le sujet du tout. Par contre, il y a un sujet de la croissance. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que nos politiques climatiques, elles se tournent autour de comment arriver à un net zéro à un certain moment, d'accord ? Donc, comment ne plus émettre de CO2 ? Donc, il y a eu 2050, c'est pour la plupart des pays, enfin pour les pays de l'OCDE. Et puis, il y a d'autres pays, les pays émergents, comme par exemple la Chine qui dit 2060 ou l'Inde qui dit 2070. Et en fait, quand ils disent 2070, c'est-à-dire, bon, ben, OK, voilà, donc discutons. Qu'est-ce que vous voulez que j'atteigne net zéro ? Oui, je comprends, mais... Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il faudrait qu'on discute. donc voilà, donc ça, et donc, qu'est-ce qui est dit ? Ben, il y a des pays qui sont en croissance, et c'est quoi la croissance ? C'est pas des gens qui sont là à se dire, ben, il faut que j'ai plus de PIB. C'est des gens qui, c'est des politiques, des gouvernements qui disent, ben, moi, mes gens, ils meurent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure correcte. J'ai pas accès à de l'eau de base, j'ai pas accès à l'électricité, etc. Donc, un exemple, même sur l'Inde, d'accord, hein, sur l'Inde, de 2015 à 2020, chaque année, c'est l'équivalent de la population espagnole qui s'est raccordée au réseau pour la première fois, d'accord.
J'ai regardé hier les stats de consommation énergétique de l'Inde, qu'on voit comme faisant beaucoup de croissance et émettant déjà beaucoup de CO2, mais c'est normal, ils sont 1,5 milliard. Mais je regardais la consommation d'énergie par personne, alors elle est vraiment très très faible, elle est deux fois supérieure à l'Afrique, donc deux fois... presque rien, et encore beaucoup plus faible qu'en Chine.
Plus faible qu'en Chine, et même en Chine, elle n'est pas encore... voilà. Et donc effectivement, il y a 800 000 enfants qui meurent prématurés en Inde du fait des pollutions atmosphériques, et puis des fumées, en fait, qui sont autour, parce que tu cuisines pas encore avec des choses convenables. Quoi, hein. Donc, ça existe...
J'avais lu la stat sur l'Agence internationale de l'énergie de l'ordre de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une énergie propre pour cuisiner.
Voilà, donc effectivement, c'est un vrai sujet.
Final, les fumées toxiques.
Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Donc forcément, les gouvernements se disent comment moi je vais faire une croissance, comment je vais développer en fait mes infrastructures dans un contexte où en fait je ne peux pas. Je dois avoir un moment ne plus émettre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble de mes infrastructures ne doivent pas émettre, énergétiques. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'électricité. Hein ? Parce que, OK, l'électricité, pourquoi pas ? Je mets du solaire, de l'éolien, je fais un système. Mais il y a tous les fuels à côté, hein, qui aujourd'hui font 80% de notre énergie finale, qui est donc le vrai sujet, hein, le gros sujet de ces émissions. Donc, 80% de mon énergie finale, c'est pour le transport, pour la cuisine, pour le bâtiment, etc., pour chauffer les bâtiments. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ?
Il faudrait référence au fait que 80% de notre énergie provient des énergies fossiles
ou... Non, c'est en fait, tu as 20% d'électricité, 80% de fuel, ce qu'on appelle le fuel.
Et donc, ce fuel,
il est fait pour quoi ? Aujourd'hui, il est fait pour faire la cuisine, faire le transport, hein, les voitures, etc. Donc, ça veut dire que si moi, je suis un pays qui est en croissance, ça veut dire qu'à la fois, je dois mettre en place un système électrique qui est décarboné, mais en plus, ma partie fuel, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, comme on sait que comment on fait sur cette partie fuel ? Nos scénarios, ils sont clairs. À la fois, il faut baisser avec des stratégies en fait, qui permettent de contrôler en fait, la demande. N'importe quoi, j'ai par exemple du vélo. Voilà. Faire plein de vélo, tu vas faire un peu moins de voitures. Quoi, d'accord ? Donc, il y a ça.
Oui, des voitures, mais plus efficaces que les voitures d'il y a 20 ans.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut à la fois casser carrément le besoin, en fait, hein, avec différentes stratégies, casser le besoin avec différentes stratégies, et pour le besoin qui reste, il faut l'électrifier, ou bien il y a du gaz vert. Or, ça coûte cher aujourd'hui. Hein. Si tu regardes, par exemple, faire de l'acier vert, l'acier vert, ça nécessite à la fois des arcs électriques et de l'hydrogène vert pour le faire. L'hydrogène étant utilisé pour la réduction, l'arc électrique étant utilisé pour le chauffage, quoi, de ça. Eh bien, pour concocter la mixture. Et donc ça, c'est des milliards d'investissements, d'accord? Et ton acier vert qui en ressort, il est plus cher, d'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Commission européenne en Europe, elle a subventionné ça. Elle nous a donné, je crois, 800 millions, me semble-t-il. Arcelor, en France, c'est une énorme subvention que la France a reçue pour passer, en fait, hein, l'un de ses gros... notre grosse usine d'acier, en fait, pour la transformer en acier vert. Donc ça, sans ça, bah, ton truc, il coûte trois fois plus cher. Donc comment, moi qui suis un pays en développement, je vais pouvoir faire ça? Du coup, aujourd'hui, lors de cette COP-là, donc c'est ça qui est intéressant parce que ça prépare le terrain pour la prochaine COP, mais aujourd'hui, c'est ça, ce qui est autour de la table, c'est ces expressions-là. C'est-à-dire, attendez, regardez, comment je fais moi? Comment je fais moi pour pouvoir avancer si je m'engage dans des choses comme ça. Donc, tu as des pays, que, par exemple, comme l'Inde, qui ne veulent pas s'engager sur « regardez, je veux absolument tripler mes renouvelables » ou « je veux doubler ceci » parce qu'elle veut avoir une politique flexible qui lui permet, en fait, de jouer un petit peu comme elle peut, hein, sur à la fois la croissance, à la fois de décarboner un peu, etc. D'accord ? Donc c'est ça qui s'exprime lors des COP. Hein. Ce qui s'exprime lors des COP, c'est des pays qui sont impactés par le réchauffement climatique. Et donc ça, c'est les mesures de pas d'atténuation, mais d'adaptation. D'accord. Donc ils disent, regardez moi, là, c'est pas possible. J'ai la sécheresse, etc. Donc comment je fais ça? Des pays qui ne sont pas capables, en tout cas ont du mal, n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place des mesures d'atténuation, hein, qui sont donc tout ce qui est là, et puis d'autres pays qui, eux, ont la capacité, et donc qui veulent s'engager sur un certain nombre de choses, et puis tu as des États pétroliers autour de ça, autour de la table, ouais. Qui, eux, disent, il faut en parler, exactement, qui disent, écoutez, moi, c'est bien le pétrole, moi, je vais m'en vendre, donc si vous voulez en acheter, pas de problème, d'ailleurs, j'ai la salle d'à côté, là, si vous voulez qu'on en discute.
C'est quand même un des sujets qui a fait jaser, et je pense qu'il faut qu'on fasse un point là-dessus, la présence importante des États pétroliers. Bon, déjà, Dubaï est un État pétrolier, mais après, ils sont venus en masse, les entreprises aussi, les majors du oil and gas, et les NOC, donc National Oil Companies, à la Saudi Aramco, et je sais pas, l'équivalent en Russie, c'est Rosneft. Je ne comprends pas. Qu'importe, ils étaient là massivement présents. Voilà, c'est quoi la cohérence dans tout ça?
En fait, la cohérence dans tout ça, c'est la réalité du monde. C'est-à-dire que, alors déjà, on a dit beaucoup de choses sur Dubaï, mais à tort, parce que, en fait, Dubaï est un État, enfin, les Émirats sont un État pétrolier, ça c'est sûr, mais les Émirats, c'est aussi le lieu du Arena, d'accord? C'est le headquarter, c'est le quartier général de Arena. Donc, tu es quand même dans une zone où, justement, là, ils étaient un peu piégés, quoi. Hein, le double down, triple up, ils ont eu du mal à l'éviter. Hein, parce que là, on était en territoire maison, quoi. Hein, donc, c'est, voilà. Donc, ça c'était. En fait, il fallait voir ça quand même. Il y a ces deux aspects-là, d'accord? D'autant et aussi, Dubaï, il y a une diplomatie très forte envers les pays émergents, d'accord? Donc, c'est très tourné vers les pays émergents, d'accord ? Donc, il y avait quand même un ensemble où, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, quand même, d'accord ? Hein, lors de cette COP. Maintenant, qui est des pétroliers ? Donc, moi, je peux l'indiquer. Donc, les pétroliers, ils ont un discours pétrolier, d'accord ? Qui est plus ou moins notre discours climatique, d'ailleurs, mais bon, on en reparlera, peut-être. Mais voilà, donc, écoutez, la transition, c'est difficile, c'est long. Oh là là, regardez, il faut construire des lignes. Alors oui, bon, on oublie qu'on a construit tout autant de 1970 à 2000 que ce qu'il faut faire dans le futur. Donc, il faut juste refaire ce qu'on a fait, en fait. Mais quand même, c'est dur. Donc, effectivement, c'est dur.
Tu fais référence le renforcement des réseaux électriques qui est nécessaire pour la transition. C'est pas non plus un effort surhumain qu'on n'aurait jamais
atteint. C'est exactement le nombre de kilomètres de lignes qu'il faut tirer, où on dit ça fait deux fois le tour de la planète, etc. En fait, c'est à peu près ce qu'on a déjà fait de 1970 à 2000. Donc, il faut continuer, quoi. Hein.
Pour faire la même chose
Malheureusement,
aujourd'hui dans 30 ans.
malheureusement d'ailleurs, hein, je veux dire, il faut malheureusement remettre le couvert, mais là, il faut le faire intelligemment, quoi. Hein. Il ne faut pas remettre le couvert pour mettre une infrastructure qui vise à faire n'importe quoi. Il faut mettre une infrastructure avec un certain nombre d'objectifs et de critères et de contraintes qui n'existaient pas à l'époque. Hein. Et donc.
Donc à t'entendre quand même, ils étaient là à, comment dire, essayer de soulever plein de verrous sans forcément proposer de solution et juste dire ah non, mais ça va être dur, c'est impossible et nous, nos
Non.
produits vont rester essentiels pendant longtemps, quoi.
En fait, on l'a eu. Il y a eu Patrick Pouyanné qui s'est exprimé récemment là, dans la presse. Donc, c'est bien parce qu'en fait, aux États-Unis, ils s'expriment depuis longtemps sur ce sujet-là et avec ces termes-là. Donc là, vraiment, on a. Donc, c'est bien, ça veut dire que la transition avance. Pour être honnête, c'est ce signe que la transition avance. Donc là, il s'est exprimé récemment dans la presse en disant oui, bon, attention. Attention, le gaz, hein, il ne faut pas trop limiter, hein, parce que si on commence à limiter, c'est la crise. Hein, donc, parce qu'en fait, il y a un lien. Donc, le discours pétrolier, c'est le lien en fait entre les fossiles et le développement et la baisse de la demande de fossiles et la crise, d'accord? Et la crise économique, la crise. Sans les fossiles, on est foutu, quoi, hein, d'accord? Alors, mais il y a un discours qui a changé. Attention, qui est de dire quand même, la transition aura lieu. Le discours des pétroliers était, la transition, on va la faire, d'accord? Donc ça c'est intéressant déjà. Donc ça c'est un premier point, d'accord? C'est un premier point intéressant. Donc, la transition, on va la faire, mais elle va être lente, elle va être progressive. Il faut la faire bien comme il faut. Hein? Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est un discours qui a évolué. C'est le discours qui était, c'est le discours pétrolier qu'on entend lors de la COP, hein, qui est là dans les conférences. Hein, donc voilà, j'étais à côté de gens qui étaient de sociétés pétrolières, d'accord, dans des conférences où on parlait du public, et puis à côté de moi, voilà, ça parlait de ça. Voilà. Quand c'était la personne de parler, bah, il disait, oui, bon, voilà, on n'a pas de. Il va falloir former des personnes, il va falloir voilà, changer nos infrastructures, etc. Donc ça va prendre tout un tas de temps, ça va prendre des efforts. Donc on va y aller, mais voilà. Donc ça, c'est le discours pétrolier. Et puis il y a le discours climatique, qui est différent, qui dit, bah, là, il y a l'urgence. Regardez tous les indicateurs là, ils sont tous dans le rouge là, et là ils vont en plus dans le rouge fluo là maintenant. Donc c'est pas l'orange du rouge là, c'est le rouge ou le rouge fluo. Donc là maintenant, il faut peut-être pas se dire qu'on a pas le temps, ou qu'on a le temps. On va peut-être pas se dire qu'on va y aller mollo. On va peut-être se dire qu'il faut quand même accélérer un petit peu, voire beaucoup. Et est-ce que c'est possible? Bah oui, on pense que c'est possible parce que regardez, on a 150 études qui le montrent. Et d'ailleurs, là, j'ai 35 pages là que je vous donne là tout de suite là. Et regardez, si vous ratifiez ce truc-là, et ben voilà ce qu'il faut faire. Voici les montants qu'il y a à investir. Voici les personnes qu'il y a à former. Voici ce qu'il faut faire, etc. D'accord? Donc ça, c'était le discours climatique. Mais face à ça, évidemment, il y a quand même le sujet que je viens d'indiquer, qui est que voilà, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Et il y a des choses sincères, hein. Il y a des problèmes sincères qu'il faut pas fermer les yeux face à ça. Mais par contre, il y a un discours un petit peu différent à tenir qui est, si tu veux, qui est lié au fait que les fossiles, c'est le symbole du développement. C'est-à-dire que sans fossiles, je ne sais pas me développer. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut casser. C'est quelque chose qu'il faut casser, mais tu peux pas le casser comme ça. Tu vas le casser que si tu as notamment des modes de financement, hein, pour le mettre en place, parce qu'il n'y a pas ces modes de financement. Donc ça va être, à mon avis, le gros sujet de la COP prochaine, je pense, qui va être le sujet de la mise en place de financement pour financer, en fait, à la fois l'expansion des renouvelables, mais en même temps, essayer d'aller plus loin, hein,
Ouais, parce que ouais, c'est un gros sujet, parce qu'il y a le fameux fonds de pertes et dommages,
voilà.
donc pour aider les pays vulnérables à s'adapter. Et pour l'instant, il n'y a pas masse de moyens. Mais effectivement, il y a aussi financer la transition dans les
La
pays.
transition.
Enfin, oui, effectivement, l'Europe, enfin, des pays riches, y compris, je pense, la Chine doit aussi, enfin, maintenant, elle est responsable d'une grosse partie des émissions de CO2 cumulées dans l'atmosphère. Maintenant, voilà, c'est allé assez vite. Elle a les moyens quand même d'aider aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi la Chine, qui maintenant pèse 28-29% des émissions mondiales de CO2, c'est quand même pas rien. Et on va dire 15-20% des émissions historiques, à vérifier, mais disons 15% pour ne pas trop se tromper. Et ça ne va faire qu'augmenter. Donc là, ça y est, on ne peut plus dire la Chine n'a aucune responsabilité, etc. Or, elle n'a rien mis au pot là, pour le fonds de pertes et dommages. Alors, ceux qui ont mis un petit peu, bah, d'ailleurs, il y avait les Émirats Arabes Unis, je pense, qui ont mis pas mal. La France, l'Allemagne, le Japon, etc. Mais rapidement, les États-Unis presque rien et la Chine rien. Donc ça, et ça, c'est juste pour la partie adaptation, c'est même pas pour la partie financement de d'un système énergétique bas carbone.
Oui, alors sur le financement, donc, bah, il y a ce que tu viens d'indiquer, effectivement, donc, il y a ce fonds qui n'est pas lié enfin, aux mesures d'atténuation, mais d'adaptation. Et alors, est-ce que la Chine fait rien ? Non. En fait, c'est que c'est des cercles diplomatiques différents, simplement. Hein, la Chine, elle a le Silk Road Programme, le programme de la route de la soie, voilà. La route de la soie, ouais. D'accord ? Et donc ça, c'est un grand programme politique, hein, enfin diplomatique, dans lequel, en fait, elle finance hein, des infrastructures dans tous les sens pour, en fait... alors, est-ce que l'objectif, c'est réellement la transition ? Disons que c'est le développement, d'accord, hein, le message... en Asie, je crois qu'on a, on l'avait souligné dans la presse, et je pense que c'est assez juste, hein, le message en Asie, c'est le développement, d'accord, hein, c'est pas le climat. Mais cela dit, en fait, d'un point de vue purement business, aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est beaucoup moins cher. Alors, l'histoire du LCOE, coût système, etc., oui, bon, mais au final, on en est encore loin. Aujourd'hui, les États, ils doivent construire des terminaux gaziers, importer du gaz et construire des centrales, importer du charbon et construire des centrales charbon qui nous sont incapables de financer. Ouais. Donc, quand c'est en dehors de la Chine et de l'Inde, c'est très compliqué tout ça. Donc, honnêtement, les renouvelables, c'est accueilli à bras ouverts, que ce soit sur les éoliennes offshore. Éoliennes au sol et énergie solaire qui sont vues comme en fait une capacité pour un pays de bénéficier, d'utiliser ses ressources propres et de se protéger des chocs extérieurs en fossiles. Et donc il y a quand même un mouvement très fort et donc le Silk Road programme contient beaucoup d'énergie renouvelable dans leur programme, mais il y a aussi des autoroutes. Mais bon, quand on parle d'autoroutes, c'est vraiment des comment dire, des points de connexion en fait entre pays, quoi, hein. Alors est-ce que c'est, moi j'ai pas analysé, j'avoue, hein, j'ai pas du tout analysé le côté climatique, enfin j'ai pas du tout analysé l'ensemble du programme Silk Road et à me poser la question est-ce que c'est climatique ou pas, j'aurais dû faire, d'ailleurs, je devrais faire, hein. Mais je sais pas, d'accord, tout ce que je sais c'est qu'il y a une bonne partie de ce programme là qui est liée aux énergies renouvelables, mais c'est clairement pas suffisant, d'accord, mais voilà.
On a pas mal parlé de, mine de rien, dans l'ordre, je voulais plutôt parler d'avancées puis de freins. On a pas mal parlé de freins, donc les pétroliers, le financement, les imaginaires qui bloquent un peu, bah, voilà, les fossiles sont essentiels pour le développement, et puis après, bah, des freins tout à fait légitimes de pays encore à peine émergents et encore très pauvres qui cherchent à se développer. Donc, côté avancée et percée de cette COP-là, quelle est ton analyse ? Et après, on pourra aussi bah, passer un temps sur, en général, des avancées des COP depuis 28 ans. Mais déjà, sur cette COP 28 à Dubaï, qu'est-ce que tu as perçu comme principales avancées ?
Oui, alors, ça, c'est... Alors, je vais faire ma séquence engagée. alors, il y a eu plusieurs avancées, évidemment. Alors, moi, je suis très côté énergie, d'accord, hein, donc, il y a eu plusieurs discussions sur... tout ce qui est adaptation, adaptation des fonds, il y a eu des sujets sur le plastique, les sujets sur des recyclages, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées, d'accord, hein, sur différents thèmes. Je me permets de parler de l'énergie parce que c'est celui que je connais. Je m'en excuse d'ailleurs de pas sortir de ça. Donc, sur l'énergie. Bah, il y a eu deux choses importantes. La première, c'est transition away from fossil fuel, qui est ce que j'ai indiqué, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, ça y est, ça fait partie du discours. Hein, la transition, on va la faire. D'accord ? Donc, j'ai indiqué comment ce discours pouvait être détourné. D'accord ? Hein, puisqu'on va la faire, mais on va y aller doucement, etc. D'accord ? Ouais. Mais ouais, c'est ça l'étape. Tu vois, l'étape d'un discours est se bâtit petit à petit, d'accord. Donc là, il y a eu un premier une première construction, d'accord, qui n'existait pas avant. Hein, donc, c'est ça, il faut qu'on s'imagine que même ça n'existait pas avant, que ça y est, on va transition away from fossil fuel. Donc, ça, c'est bien parce que ça te met un peu ça met l'ensemble des États dans un état d'esprit qui est de dire, OK, bah, voilà, c'est fini. Hein, on va faire autre chose. Hein, le but, c'est d'aller vers autre chose. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas acheter de pétrole. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, mon avenir, il n'est pas là-dedans. D'accord? Donc, ça, c'est important comme mentalité, enfin, pour mettre en place une mentalité. Et là, alors là, c'est maintenant que là, je vais être mon bon militant, là. Il y a ce double down, triple up. Donc, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est, comme j'ai indiqué, déjà, c'est la première fois qu'il y a un programme comme ça, bien précis, qui est mis en place, une COP. Mais surtout, pour une fois, et là, je hurle ça, surtout à nos amis français, c'est que y a les deux points, il y a les deux piliers, il y a la baisse de la demande et il y a le remplacement par les énergies renouvelables. Peu importe les énergies renouvelables ou autre chose, il y a eu d'ailleurs, je sais plus, quelques pays qui ont 20 ou 30, ou je sais plus combien, qui ont signé le triplement de l'énergie nucléaire. C'est très bien. Donc, soit nucléaire ou renouvelable, peu importe. Mais ça y est, il y a les deux. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand, dans un document comme la COP, il y a un double down and triple up qui était signé? Sur le plan juridique, rien. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver là avec une amende ou un carton rouge, un pays qui ne le fait pas, évidemment. Donc ça, sur le principe, on pourrait imaginer que, comme ce n'est pas contraignant, les pays signent n'importe quoi, et puis après, ils vont chez eux, et puis après, ils vont se mettre une bonne rasade de pétrole et manger un petit morceau de charbon. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a quand même en fait un cadre politique qui est mis en place, et donc c'est à nous de pouvoir arriver devant les gouvernements et de dire mais regardez les gars là, il faut double down et il faut triple up. Et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, c'est maintenant là, depuis en fait il y a réunion sur réunion avec notamment mes collègues là des différentes associations et des gouvernements à droite à gauche, pour en fait traduire dans des politiques nationales ces engagements du double down, triple up. D'accord ? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il faut que nous tous, et je pense notamment pour la France en tout cas, il y a quand même un mouvement très fort qui est tourné vers la sobriété et vers les baisses de demandes énergétiques. Mais là, il y a un cadre politique qui est mis en place grâce à la COP qui permet en fait de dire... Ben regardez, il y a un engagement qui est pris. Et je prends l'exemple du GIEC, d'accord ? Le GIEC, il n'y a pas une contrainte. Quand il y a un rapport du GIEC qui sort, il ne dit pas vous allez devoir baisser vos émissions sur le temps, sinon vous allez avoir des amendes, d'accord ? Le rapport du GIEC, c'est un rapport qui explique les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on s'en sert ? Chacun d'entre nous, on arrive avec le GIEC sur la table dans les réunions et on le pose, on dit bah alors. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'est pas important ce truc, mais regarde, moi j'ai le GIEC qui me dit ça. Donc c'est comme ça qu'on utilise ces rapports en fait et ces documents, avec quand même la COP qui est en plus quand même un engagement, quelle que soit sa valeur, même s'il n'y a pas de valeur contraignante, mais qui est quand même un signal politique. Et donc, à moins d'être complètement schizophrène, ce qui est un peu le cas de nous tous, mais pas totalement quand même, eh bien, on dit, t'as quand même signé un truc. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer là-dessus, et je pense qu'il faut, là, il y a une petite porte qui s'est entrouverte, et je pense qu'il faut arriver avec un burin maintenant, enfin, un pied de biche plutôt, et il faut tout casser. Et il faut arriver à dire, voilà, il faut élargir.
Si mon parallèle vaut quelque chose, mais l'accord de Paris, qui est quand même une COP, la COP 21, qui historiquement stand out un peu quand même, je veux dire, il en reste quelque chose. On cite souvent l'accord de Paris à la COP 21, plus qu'on cite la COP, je sais pas, 12, je veux dire au hasard. Bon, je sais pas où était la COP 12 ou ce qui a été fait, je dis ça au hasard. Ou la COP 8. Bon. Non, la COP 21, ça stand out. Et c'est vrai que, bon, dans les réunions, dans les discours, dans les politiques, c'est érigé comme un bon argument d'autorité. Attendez, je vous rappelle qu'on a signé. Est-ce que là, avec ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, hein, donc triplement des renouvelables, doublement de l'efficacité énergétique, sortie à terme des fossiles, tu sens que ça peut avoir un effet d'autorité un peu similaire?
Alors, je pense qu'on est... Alors là, pardon, là, je vais faire une analyse personnelle. Je pense qu'on est maintenant... Ça, c'est ma vision de la chose, d'accord, hein, de ce que je perçois, d'accord. Donc, je n'ai pas la prétention que ce soit la bonne. Hein. Mais mon avis, c'est qu'on est dans une phase d'implementation maintenant, de mise en place. On n'est plus dans la question de l'argument d'autorité, on est dans la question de regarder, on a signé ça, maintenant, il faut le faire. Et donc, regardez comment il faut le faire. Et donc, mes collègues, ils arrivent avec différents... Donc, il y a des groupes de travail qui s'organisent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a à la fois une explication de la façon dont on va le faire. Donc ça veut dire la supply chain qui est derrière, la production des panneaux, les recyclages, les métaux, les réglementations. Donc il y a tout un tas de groupes de travail qui sont mis en place et qui discutent directement, soit au niveau international. Dans des forums comme il y a eu là il y a quelques jours le forum des ministres de l'énergie organisé par l'Agence internationale de l'énergie, d'accord, donc soit c'est dans des forums ou soit après, et là c'est là par exemple là je vais faire partie de ça puisque avec le Global Solar Conference c'est ce qu'on va faire, on a des groupes de travail qui sont par pays ou par région, d'accord, et on va essayer de regarder quels sont les blocages au niveau réglementaire, comment les améliorer. Quels sont les bénéfices de ça? Et donc, il y a des études qui sortent, etc. D'accord? Donc, en fait, on n'est plus, aujourd'hui, je dirais, on n'est plus trop, le secteur, en tout cas, des énergies renouvelables, qui malheureusement, encore une fois, je parle que de renouvelables, donc je parle que d'énergie. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour arriver au net zéro. Je parle juste de ma lucarne, d'accord? Mais c'est quand même assez important, parce qu'on rappelle quand même que le charbon, c'est 40% des émissions mondiales. Hein, 40%, donc c'est très important. 35,
juste de CO2,
de CO2, oui, de CO2.
C'est déjà pas mal,
mais c'est énorme.
En CO2 équivalent, oui. C'est un peu moins de 40%, mais oui,
voilà. 40%. Ok, bien sûr, mais tu vois, c'est voilà, donc c'est gigantesque. Donc après, le problème, c'est qu'il y a 70% de ce CO2 qui est produit simplement en Chine et en Inde, d'accord. Donc la Chine, on peut pas vraiment toucher, d'accord. C'est elle qui fait son truc. Hein. La façon d'influencer la politique énergétique chinoise, c'est par exemple avec la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Hein, ça fonctionne. Hein, beaucoup de mes amis chinois se préparent à ça. Ils disent oh là là, qu'est-ce qui se passe, mince, on va faire quelque chose, etc. D'accord. D'ailleurs, ils voulaient éviter en fait la taxe en disant on va commencer à décarboner nos produits à l'export, d'accord. Certains produits à l'export, par exemple les panneaux, on va faire du net zéro autour de nos productions de panneaux, mais malheureusement ça marche pas comme ça. La taxe de carbone, elle est aux frontières de l'Europe, elle est faite par le mix énergétique global du pays, donc tu peux pas l'éviter comme ça, d'accord. Donc il y a ça. Tu peux influencer la Chine à travers ce genre de politique. Mais pour l'Inde, par exemple, là, il faut être vraiment proactif parce que l'Inde, elle reçoit amicalement l'ensemble. Enfin, il y a des investissements extérieurs. Il y a des joint ventures qui se créent en Inde, des partenariats, en fait, entre des sociétés internationales et des sociétés indiennes. Ça marche très bien. Il y a un grand marché. C'est très accueillant. En termes d'affaires, bon, je ne dis pas que c'est très facile. Alors moi, je travaille beaucoup en Inde, ça marche très bien, mais je sais que ce n'est pas si simple que ça. Donc il y a quand même une démarche, il y a quand même une attente, en fait, il y a des possibilités, en fait, en termes de partenariat. Et donc, sur ce que je disais, c'est sur le charbon, 70%, donc Chine, OK, Inde, on peut faire quelque chose. Donc, c'est quand même des gros sujets hein, de faire évoluer notre système énergétique. C'est quand même un gros sujet. Donc, il y a ça qui est mis en place. Je ne dis pas que je ne regrette pas que ce soit ailleurs, que ce soit ailleurs, mais en tout cas, sur la partie énergie, il y a cette démarche de voilà, il faut faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense, ça c'est une impression personnelle, que lors de la prochaine COP, il y aura un gros sujet sur la partie financière qui va se mettre en place. Moi, personnellement, j'ai pour le retour que j'ai, hein, travaillant dans différents pays, j'ai posé la question où est-ce que vous en êtes dans votre net zéro, dans votre trajectoire net zéro, qu'est-ce que vous faites, etc. Et en fait, le sujet de l'électrification, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas du tout posé sur la table. D'accord? Il y a juste les véhicules électriques, les deux roues électriques, les tchouktchouks, là, comment on dit, là, les sortes de bus à moto, là, etc. Donc, qui fait beaucoup, hein, ça fait
Donc à chaleur
1,2.
électrique, non? Enfin, quand même, c'est une technologie
Bah,
mature.
oui, mais pour l'instant, c'est pas. Oui, mais c'est pas si simple. Regarde, si tu regardes la France, comment elle se développe, la pompe à chaleur électrique? Bah, il y a des subventions, etc. Tu vois, hein, donc, il faut aller chercher, hein, les gens là, chez eux, là, hein, pour les installer. Hein, c'est pas si simple. Hein. Un déploiement de pompe électrique, de pompe à chaleur, c'est pas si simple. Hein, donc est-ce que tous les pays sont organisés pour ça? Et est-ce qu'il y a les moyens financiers pour le faire? Et ben justement, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que le double down, là, c'est-à-dire que. Ce qui serait extraordinaire, c'est un appel que je lance, c'est que les promoteurs des énergies renouvelables, enfin, moi par exemple, je suis incapable de travailler sur la question de baisser mon énergie. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, je rêverais de pouvoir faire ça, mais on n'a qu'une vie, on n'a que 24 heures, c'est impossible. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble. Et donc cette partie de baisse de l'énergie, il y a une porte qui s'est ouverte et il va falloir discuter des modalités de financement. De ces stratégies de baisse en énergie. Je rappelle que 2/3 des émissions, elles sont aujourd'hui dans les pays émergents. Donc c'est un sujet capital, en fait, de pouvoir maîtriser et de contrôler la demande énergétique dans des pays émergents qui sont en croissance, à la fois de population et à la fois économique, pour des questions d'infrastructure. Donc c'est même pas la peine d'imaginer que la croissance va s'arrêter demain dans ces pays-là. C'est même pas la peine. Donc comment faire ça? Bah, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'efforts, en fait, qui soient faits, à la fois des études qui soient produites sur ces sujets-là. Hein, les études, ça sert. C'est pas chaque ministre, tu le vois, avec son petite étude là sous bras. Hein, il lit les choses, il lise les choses. Hein, c'est d'ailleurs, on en discute beaucoup. Hein, c'est les études sont lues par tout le monde. Hein, peut-être pas tous les ministres, mais et puis pas toutes les études. Mais c'est lu. Il y a des choses qui sont lues. Il y a des choses qui sont intégrées. Et donc sur la partie baisse des émissions, baisse de la demande énergétique. Qui a été cristallisé sous la forme d'une efficacité énergétique que je trouve insuffisante, certainement, en termes de définition. Mais c'est à nous de l'élargir. Honnêtement, c'est pas un carcan intellectuel qui dit, ouais, il faut que l'énergie, que l'efficacité énergétique. C'est pas du tout ça. Et donc, ça serait bien qu'il y ait un énorme mouvement, en fait, qui se lève, qui soit un équivalent, quelque part, hein, des énergies renouvelables, pour dire, voilà, regardez comment on va baisser voilà, nos trucs, comment les stratégies pour faire évoluer l'organisation des villes, les stratégies pour, bah, justement, comment déployer des pompes à chaleur, etc. Alors, là, je dirais presque que je fantasme un peu parce que c'est en dehors de ma sphère de compétences complètement, d'accord? Mais il y a des gens qui peut-être nous écoutent là et qui, eux, sont compétents sur ces sujets et donc qui peuvent transformer, redéfinir mon langage d'ignorant sur le sujet en un langage professionnel et transformer ça en de vraies actions parce qu'il y a un cadre qui s'ouvre et je comprends bien que c'est un peu plus difficile parce que il n'y a pas, si tu veux, cet intérêt économique quelque part. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas je vends de l'électricité. Hein, quand tu vends de l'électricité, tu gagnes de l'argent et donc tu as des investisseurs, etc. Donc la façon de faire ça sur les efficacités énergétiques, tu as par exemple le système de ESCOM, je ne sais pas si tu connais. Donc ESCOM, c'est tu es rémunéré au gain en fait, hein, énergétique. Donc je donne un exemple, tu as une
Ah.
consommation de 100, si tu baisses ta consommation de 20, eh ben, le gars te donne 10, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc ça se financiarise quelque part. Hein, ça peut se financiariser, mais j'imagine que tout n'est pas si simple que ça, et que même ça, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Mais donc voilà, se diriger vers ce genre de stratégie économique, politique, me semble voilà, quelque chose de positif. En tout cas, sur les renouvelables, en tout cas, le secteur est vraiment en train de s'organiser pour délivrer.
D'ailleurs, c'est marrant, oui, c'est marrant. J'avais fait un petit exercice de retracer l'historique des rapports du groupe 3 du GIEC, donc
Ouais.
le collège du GIEC qui travaille sur les solutions de décarbonation. Et il y a 20 et quelques années, le rapport, le combienième, il me semble, c'était le troisième, ou ouais, le troisième rapport du groupe 3 du GIEC, donnait une place quasi inexistante aux renouvelables, peut-être un petit peu d'éolien et le solaire, ça n'existait même pas, parce que la technologie à l'époque, donc il y a 20 ans. Et puis bah, de fil en aiguille, rapport après rapport, évidemment, les renouvelables ont trouvé trouver une place prépondérante jusqu'à être le principal levier de décarbonation, pas le seul, mais en tout cas, c'est devenu incontournable. Et malheureusement, vu le temps qu'on a et le nombre de solutions qu'on a, voilà, les options sont limitées. Donc faut y aller. Peut-être justement, pour faire un bilan, parce que au final, aujourd'hui, on a des solutions qu'on n'avait pas vraiment il y a 20 ans. Enfin, il faut être franc, la baisse des coûts des renouvelables, notamment depuis 10 ans, celle des pompes à chaleur, enfin voilà, on a des armes qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et honnêtement, je regardais dans les rapports d'il y a 20 ans du groupe 3 du GIEC, les solutions qu'on pressentait comme étant particulièrement porteuses, c'était par exemple le nucléaire et la capture de carbone, qui depuis 20 ans n'ont pas, malheureusement, pour une raison, voilà, le nucléaire a stagné en termes de production et de réacteurs installés. Enfin, le parc nucléaire fait à peu près la même taille qu'il y a 20 ans mondialement. Et la capture de carbone, il y a eu à peine, il y a à peine 20 projets en fonctionnement aujourd'hui et qui capturent quelques millions de tonnes. Enfin bon, bref, ça n'a pas beaucoup avancé. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça n'avance pas. Mais voilà, là, maintenant, la fenêtre s'est encore plus refermée depuis 20 ans. Et là, ça y est, c'est la dernière cartouche un peu. Où est-ce que j'allais avec ça? Oui, néanmoins, même si ça fait 28 ans qu'on fait des COP, et que ça ne fait que quelques années qu'on a un peu vraiment des armes pour avancer. Quel bilan on peut faire, à ton avis, des COP historiquement? Déjà, on en a un petit peu parlé, mais quels impacts réels ça a sur les politiques climatiques des pays, et quels impacts ça peut avoir concrètement sur l'accélération des solutions, alors technologiques, mais aussi d'efficacité, de sobriété?
Voilà, bon alors. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas faire toute l'histoire des COP, mais je vais plutôt passer, en fait, très rapidement, on va dire que entre la conférence de Rio, l'échec de Copenhague, et puis les accords de Paris, qu'est-ce qui s'est passé entre les trois? Première chose, progressivement, on a étudié la part de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, et à partir de 2000, elle est apparue claire, et ensuite elle est devenue évidente, au sens c'est non-retour, quoi, hein, c'est clair. Donc c'est pas non plus il y a 150 ans qu'on connaît le truc, quoi, hein, donc il y a eu ça déjà. Même si, depuis, on a ressorti les archives, là, en 1970, nos amis d'Exxon, très transparents, très connus pour leur transparence et leur soutien au climat, avaient déjà des courbes étonnamment précises, d'ailleurs, sur l'impact de brûler des fossiles et le CO2 et le réchauffement climatique. Mais bon, on va mettre ça de côté, d'accord, hein. Vas-y.
Sur ce rapport Exxon, effectivement, je l'ai lu en détail. C'est un peu troublant, années 70, ça fait ah ouais. Juste sur les émissions de CO2 et la température, la hausse de température dans les 50-100 ans qui viennent. Il tombe assez juste, ça correspond à ce qu'on observe. C'était quand même pas les seuls, il y avait d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires qui arrivaient aussi. Et ce que je me demande, c'est quand même, il n'y avait pas le même consensus scientifique qu'il y a aujourd'hui à l'époque. Il y avait aussi des chercheurs qui avaient du scepticisme, années 70, chez Exxon ou ailleurs. Ceci dit, il est très clair qu'après les projets de pétrolier dans les années 80 ont énormément ralenti le processus pour bâtir le consensus scientifique. Et que voilà, c'est vraiment à partir du troisième, quatrième rapport du groupe 1 du GIEC, donc année 2000, où là, voilà. C'est bon, vraiment, on a assez de preuves, c'est non seulement du fait de l'homme, mais c'est grave aussi. Donc, ouais. Malheureusement, voilà. C'est qu'à partir du milieu des années 2000 qu'on est un peu au courant.
Voilà, on a du mal à se représenter ça, hein, parce que on a du mal à se représenter que, par exemple, nos scénarios net zéro viennent des années 2000, en fait. Hein. Ça avait commencé avant, etc. Et puis, il y a des militants qui sont là depuis les premières heures. Il faut les remercier, d'ailleurs, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a, petit à petit, en fait, l'histoire du climat, c'est l'histoire de combat. Hein. C'est une histoire de combat. Hein. Petit à petit, on gagne un peu du terrain. Hein. C'est ça. Donc, entre conférence de Rio et l'accord de Paris, il s'est passé que petit à petit, on a bien compris le sujet de l'impact. On l'a démontré, quoi. Voilà, on l'a démontré. On a quantifié les impacts du climat, enfin du dérèglement climatique, et on a pu montrer que c'était pas bien. Ça allait pas bien se passer si ça continuait. Et puis, le sujet très important, et c'est là où ça fait le lien entre quelle est la relation entre les COP et les politiques climatiques, c'est les NDC. Ça, c'est le sujet numéro un.
Donc, Nationally Determined Contributions, c'est ça?
Voilà, exactement.
Pour les non-spécialistes comme moi, parce que j'ai à peu près tout dit. Non, mais voilà, c'est les engagements de chaque pays à contribuer au net zéro,
Voilà,
c'est ça?
exactement. Alors, comment on fait ça? C'est ça qui est intéressant parce qu'il faut voir de l'intérieur. Ça. Comment ça marche? Eh bien, IRENA joue un gros rôle là-dedans. Comment ça fait? Comment ça marche? C'est que, donc, IRENA, elle a des modeleurs, elle a des équipes qui font ce qu'on appelle des remaps, qui sont en fait des scénarios net zéro par pays. Alors, bon, c'est uniquement sur les énergies renouvelables, ce qu'on peut critiquer, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, moi-même, hein, je trouve ça dommage, en fait, hein, que ce soit que des renouvelables, que ce soit un système 100% renouvelable à chaque fois qui est proposé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est IRENA qui propose ça, donc on va commencer à faire autre chose. Mais à la limite, ce n'est pas grave. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des gens, donc des professionnels, des modeleurs, des experts X, Y, Z, qui en fait travaillent avec les directions techniques des pays et des ministères, et les ministres et les ministères, pour en fait établir, les accompagner dans leur trajectoire net zéro et dans leur politique climatique. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que ça, c'est un travail de tous les jours. Qui est fait. Et donc, c'est pour ça que l'IRENA, c'est une énorme institution qui va aller dans tous les pays, etc., travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fois, il y a la constitution, en fait, de ces trajectoires net zéro, donc un appui à ça. Mais également, quand il y a eu des pledges, des engagements, en fait, sur le net zéro, comment c'est traduit dans des lois? Parce que, en fait, c'est ça, le climat, la politique climatique, c'est des lois en fait. C'est-à-dire que à la fois, on va se dire, ben, ok, il faut des technologies, d'accord, hein, que ce soit pompe à chaleur, etc., et des stratégies, hein, puisque voilà, pour baisser la demande, il faut un programme vélo, un programme machin, bon, ok. Et donc, désolé, je parle du vélo à chaque fois parce que ça montre un peu aussi mon incompétence sur le sujet. Mais donc voilà, il faut en fait un certain nombre d'éléments pour arriver. À net zéro, et donc il y a des équipements, des infrastructures, de l'innovation qui n'est pas que technique, etc., qui doit être mis en place. Mais en fait, pour que tout ça puisse entrer en œuvre, eh bien, il faut des réglementations et des lois. Et donc la traduction en réglementation et en loi, c'est un peu la clé, en fait, hein, de voûte de nos politiques climatiques, évidemment. Et donc, là, j'en profite aussi pour passer un message. C'est que ces lois, eh ben, c'est nos gouvernements qui les passent. Hein. Alors, ça peut être par exemple la Commission européenne qui va faire qui va promouvoir en fait des choses. Et puis après, il faut quand même que ce soit transcrit dans nos réglementations nationales. Donc, par exemple, on l'avait vu sur les énergies renouvelables. Il y a une volonté de l'Union européenne d'accélérer. Et après, chaque pays a dû faire sa loi d'accélération. Et nous, notre accélération, quand elle est arrivée en France, bah, c'est pas vraiment une loi d'accélération qui est arrivée. Alors, comment ça se fait que ce soit ça? Comment ça se fait que malgré nos intentions et malgré nos politiques claires et nos trajectoires net zéro, par exemple en France, on a de très belles choses. Hein. En France, on a RTE qui avait publié son rapport et qui est extraordinaire et qui, pendant un moment, avait quand même calmé le jeu. Où nous, on disait, bah voilà. Regardez, renouvelable, nucléaire, c'est super, il y a des complémentarités possibles, etc. D'ailleurs, on en avait discuté, Cyrus, à ce moment-là, c'était voilà, l'occasion, parce que justement, on se disait, voilà des choses positives qu'il faut diffuser pour un peu limiter, en fait, le conflit social, quoi, les conflits sociaux. Donc c'était vraiment intéressant, et on a beaucoup de choses, d'autres choses encore. On a le scénario de mégawatts qui, c'est vrai, et sans nucléaire, mais en même temps, il y a beaucoup de sobriété très intéressante à mettre dessus, enfin, à prendre dedans. Il y a le scénario du chiffre projet qui est très bien aussi. Hein. Alors, c'est pas vraiment un scénario, mais il y a quand même des actions à faire par secteur. Et honnêtement, elles sont tout à fait conformes aux autres scénarios net zéro. Et puis, il y a l'ADEME aussi qui a fait un énorme travail. Donc on a en fait une liste d'actions très claire, et si on prend tous ces trucs-là, tous ces travaux, et qu'on en fait une sorte de point de convergence, eh ben, on a tout à fait une politique climatique qui tient la route et qui satisfait tout le monde. Hein, à la fois la protection de la biodiversité, du vivant, les forêts, il y a tout qui est compris, d'accord? Et alors, comment ça se fait que quand ça se traduit dans les lois, bah, ça se fait comme ça? Eh ben, parce que, justement, la transition énergétique, c'est une négociation sociale. C'est une négociation où, en fait, tous les gens qui sont représentés, si nous tous, on est en conflit et qu'on dit, bah non, mais moi je veux ça, mais moi je veux ça, je veux ça, le gouvernement, il ne sait pas trop où aller, d'accord? Et donc, quand il ne sait pas trop où aller, eh ben, il y a tous les autres là, autour là, qui ont plein d'autres choses en tête que ce que les gens du climat ont en tête, qui commencent à profiter, tirer un peu la couverture à eux, voilà. Et donc c'est ce qui se passe. Et donc c'est un point majeur, je trouve, que les préparations des NDC de chaque pays, c'est un point majeur de politique climatique. Le fait qu'il y ait une institution internationale qui travaille avec les différents pays pour transcrire en loi les actions qui sont listées dans les NDC ou les engagements net zéro, ça, ce sont des choses absolument extraordinaires. Alors, c'est vrai que c'est tourné beaucoup sur les marchés émergents, évidemment, parce que c'est eux il y a un renforcement des capacités à faire, d'accord? Mais bon, IRENA traîne ses guêtres dans les pays OCDE également, hein. Mais bon, voilà, forcément, ça n'a pas le même impact. Mais voilà, donc ça, j'ai jamais bien compris d'ailleurs pourquoi on disait que les COP n'ont pas d'influence. Tellement ça en a, tellement, tellement, tellement la préparation des NDC sur les marchés émergents crée un mouvement en fait, hein, et tellement les préparations de chacun, mais même sur les pays OCDE, quand vous regardez même la Corée, qui est dans un état pas terrible en termes de politique climatique ces derniers temps, elle a quand même mis en place un
Ok,
document.
qu'est-ce qui se passe en Corée?
Oh, il commence à regarder un peu le nucléaire en disant c'est pas mal le nucléaire quand même. Peut-être se concentrer là-dessus, peut-être un peu moins sur les ENR. Et puis le charbon, ça va faire le lien entre les deux. Donc on parle de 20 ans de charbon. c'est pas génial. Donc l'Agence internationale de l'énergie a revu, hein, à la baisse les ambitions de la Corée et à la hausse donc les émissions venant de ce pays. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du nucléaire, encore une fois, c'est pas ça du tout, hein. Malheureusement, quand on est dans un état d'esprit où on se dit, bon, voilà, peut-être plus, on va faire ça et pas l'autre. Eh ben, c'est fichu. Parce qu'il y a quand même le délai entre les deux qu'il faut combler, quand bien même on n'a pas vraiment trop envie d'en faire. Donc, même la Corée va quand même produire des scénarios, va produire des actions. Et donc ça, c'est la clé. Pour moi, c'est chaque pays doit maintenant travailler sur son scénario net zéro, que chacun ait des papiers là-dessus. Et que du coup, les citoyens et les industriels, en fait, prennent ces papiers-là et puis vont voir les États et disent, allez les gars, là, ouais, voilà, ça c'est les lois qu'il faut passer, voilà comment faut faire, etc. Et pousser là-dessus. Voilà, mais évidemment, si c'était aussi simple, ça serait merveilleux. Mais voilà, j'évoque le sujet un peu en simplifiant un peu les choses, en mettant les grandes masses, quoi.
Effectivement, non, mais à nouveau, sur le papier, c'est une chose, et en
Voilà.
pratique, c'en est une autre. Il y a des verrous sociaux, il y a des verrous techniques qu'on n'aura pas vus, des verrous géopolitiques, ou que sais-je. Ceci dit que dans les grandes lignes, il fasse favoriser le développement de telle ou telle technologie, ou gérer la demande par l'efficacité ou de la sobriété sur tel ou tel pan d'émissions de CO2, c'est des choses quand même effectivement assez bien documentées. Oui, non, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, cet effet d'entonnoir entre les COP, on va dire, bon, même si les États viennent avec. C'est pas là que les décisions se prennent tant que ça, c'est en amont et la COP entérine ce que les États sont déjà prêts à faire. Mais qu'ensuite ça redescende, il y a des NDCs, National Determined
Voilà.
Contributions, qui après se traduisent en politique climatique nationale jusqu'à des feuilles de route très détaillées type rapport RTE.
Voilà.
C'est
Alors
clair.
après, oui, les décisions sont prises avant, au sens où le papier des NDC est envoyé avant, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe à la COP en termes de décision. La preuve, le double down, triple up, c'est décidé clairement, hein, lors de la COP. Et même chaque pays, en fait, bouge un peu son curseur. Hein, parce que là, il y a tous les autres pays autour de lui, donc il discute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que machin? Ah, moi j'ai fait ça. Ah bon, on peut faire ça comme ça? Ah bon, on peut faire autrement? Donc il y a des discussions. Vous savez, on imagine souvent l'État comme l'État, c'est-à-dire comme, comme ou une entreprise comme une entreprise, c'est-à-dire un truc comment dire, mais, pas imaginaire, mais comment on dit, dématérialisé en fait, déshumanisé. Mais il y a avant tout des hommes qui sont là, et donc des êtres humains qui discutent. Donc combien de fois, pour ceux qui ont travaillé avec des gouvernements dans, dans différents pays, on connaît, c'est-à-dire il y a un ministre qui est arrivé de je sais pas quel pays, il dit « Ah bah là, j'ai rencontré machin, il m'a dit qu'on peut faire tel truc, donc on va le faire !» Donc, alors, je sais pas si ça se passe comme ça en France, parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir ce genre de relation, mais dans certains pays dans lesquels je travaille, ça se passe comme ça. Donc, donc il y a vraiment une... y a pas, même si les NDC sont envoyés avant, il se passe quand même des choses quand vous avez tous les ministres, tous les, plein de présidents et toutes les associations du monde qui sont tournées vers le climat et les actions climatiques qui sont autour de vous. Il se passe quand même des choses. Et voilà. Donc,
Très bien. Hop, on est bien. On a fait pas mal de choses. Là, je pense qu'on peut, on peut conclure. Conclure sur quoi d'ailleurs, je sais pas trop, je sais pas. C'est quoi là, les prochaines, je sais pas, les perspectives principales. Bon, peut-être, oui, effectivement, sur ton métier et les perspectives que tu vois en termes de déploiement des renouvelables, là, voilà, même en Chine, est-ce qu'on peut commencer à imaginer, à espérer qu'on ferme des centrales à charbon rapidement, c'est ça la grosse priorité, c'est ce qui est le plus remplaçable, parce que le déploiement des renouvelables s'accélérerait à tel point que ça vaut même plus coup de continuer à faire tourner des centrales à charbon. C'est ça l'espoir des prochaines années qu'on doit voir, sinon ça va pas le faire.
Alors, je m'excuse d'être un peu rabat-joie là-dessus, c'est que j'ai du mal à faire des projections, non pas parce que je suis pas capable, alors, bon, je suis pas forcément capable d'en faire de façon précise, mais non pas parce que je suis complètement aveugle sur les actions qui sont en cours, parce que je travaille quand même sur différents marchés, dont la Chine, hein, d'ailleurs. Donc j'ai quand même une certaine visibilité, mais je suis plus tenté de dire il y a rien qui est jamais gagné, il y a aucun acquis qui sont, on pense que c'est acquis, c'est fini en fait. Il suffit de regarder la France. RTE avait sorti son rapport, tout le monde était heureux, et bam, quelques mois plus tard, commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Boum, la loi sur la souveraineté qui remet en cause les objectifs renouvelables, qui remet le nucléaire à la place du renouvelable, qui maintenant sort du renouvelable et de... Voilà. Donc, alors qu'on avait un truc qui était bien carré, etc., paf, tout ce qui est parti en vrille. Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement parti en vrille, puisqu'il y a quand même un cadre, etc. Et que, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne tient qu'à nous de travailler sur ces sujets-là en disant, d'ailleurs, le gouvernement, quand il a sorti sa loi sur la souveraineté, comme il y a beaucoup de gens qui ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » il ne peut pas le passer sous le tapis complètement. il ne peut pas faire une signature comme ça, vite fait, sans qu'on le remarque. Donc je pense qu'il y a des trajectoires et des actions qui sont assez claires quand même, d'accord ? Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est enclenchée. On dispose de technologies et d'un savoir qui nous permettrait de baisser significativement les émissions. Et aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, les émissions, elles baissent, mais pas assez. Mais on sait ce qu'il faut faire pour les baisser plus. Et ces baisses d'émissions, elles sont masquées par notamment la Chine, qui est en croissance, et qui donc, le jour où elle va courber un curve, elle va baisser, inverser la courbe de ses émissions, et ben là, ça va nous sauter aux yeux, parce que du coup, il y a nos baisses, nous, qui vont commencer à apparaître de façon très forte, d'accord ? Et donc aujourd'hui, c'est masqué tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que ça va arriver ? La Chine, elle est vraiment motivée pour y aller, et c'est pas... Aujourd'hui, on a entendu ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on parle de ça, comme quoi être dans une dictature, c'est génial. C'est ça qui permet d'avancer dans nos politiques climatiques. Je ne sais pas, on avance très bien en OCDE, enfin, on avance en OCDE, on n'est pas des dictatures. Donc bon. Mais voilà, donc la Chine, elle est vraiment motivée pour le faire. Et pour ceux qui travaillent avec des entreprises chinoises, il y a très peu d'entreprises qui vont vous dire, ah ouais, non, la baisse d'émissions, c'est pas mon truc, quoi. Hein, ils sont tous tournés vers 2030, c'est le pic d'émissions, et les principaux opérateurs électriques, ils sont cinq en Chine, d'accord? Donc on a cinq EDF chinois, et chaque EDF représente la moitié de la planète en termes de capacité installée électrique. Évidemment que non, parce qu'ils sont cinq, donc c'est peut-être la moitié, mais voilà, enfin, c'est énorme, c'est énorme. Elle,
Considérable.
voilà, elle n'envisage pas du tout de faire du charbon après 2030. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est clair. Quand en Chine, on dit des choses comme ça, c'est clair. Alors, est-ce que ça peut évoluer? Peut-être. Mais pour l'instant, ça prend pas vraiment la tournure que ça évolue parce que c'est même l'inverse. Parce qu'en fait, la Chine, elle explose ses cibles, ses objectifs en énergie renouvelable. Elle va au-delà, en fait, les opérateurs et les développeurs en Chine, ils vont au-delà des objectifs qui ont été fixés, parce que ça marche très bien, les coûts baissent, le truc s'installe, ça marche très très fort. Et donc, comme le truc il marche bien, eh ben, en fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Et ce qu'on a du mal à, enfin, les informations qu'on n'a pas, par exemple, c'est le nombre de centrales à charbon qui sont annulées. On n'a pas ces informations-là. Donc récemment, là, je discutais avec un ami qui lui a ces données-là. Donc il les avait données, d'ailleurs c'est public, hein, enfin il faut trouver le site. Donc vous avez les trucs installés, les trucs fermés et les trucs annulés. Il y en a énormément qui commencent à s'annuler là, énormément, de plus en plus. Donc à la fois il y a des annulations de nouvelles capacités, à la fois il y a des facteurs de charge qui vont commencer à être rognés. Il y a une volonté politique à partir de 2030, de toute façon, d'arrêter le charbon, le nouveau charbon. Alors, est-ce qu'il va y avoir plein de charbon d'ici 2030? Ben, c'est ce qu'on pensait, et peut-être pas. Donc, bon, la Chine, c'est le pays qui électrifie le plus au monde, de loin, de très loin, de très très loin. Donc, il y a quand même un certain nombre d'ingrédients qui font que si on continue, si nous, on accélère en fait sur nos politiques climatiques qui sont très claires, d'accord? On accompagne les marchés émergents dans leur transformation et que d'une façon ou d'une autre, on essaye de regarder un peu la Chine et de les pousser dans cette direction, comme par exemple avec d'un point de vue diplomatique, hein, je dirais, hein, c'est plutôt diplomatique, et les zones, comment on dit, les CO2 aux frontières, la taxe carbone aux frontières. Mais également d'un point de vue commerce, hein, je veux dire, quand au CDE, je dis, je vais tripler mes capacités de renouvelables, pour la première fois, vous avez la Chine qui est apparue comme ça, là, de la COP. Elle a sorti sa tête, là, elle dit, ah, il se passe quelque chose, là. Alors que, logiquement, ils ne sont pas allés du tout là. Et là, on a vu la tête de la Chine, là, arriver, là, comme ça, de côté, là. Qui arrive, mais... Ah, mais ça, je suis d'accord. Donc c'était marrant. En plein milieu des négociations, on a eu une annonce de la Chine qui disait, voilà, donc ça, voilà ce genre de truc qui envoie des signaux positifs et qui permettent d'orienter la Chine vers, ah bah, je vais construire des capacités d'électrolyseurs parce que je sais que en Europe, il va commencer à y avoir le green hydrogen qui va arriver. Je vais mettre en place mes véhicules électriques parce que non seulement j'ai mon marché intérieur, mais je vois que ça se développe, etc. Il y a les batteries, il y a ça. Donc en fait, tout ça crée un ensemble. Hein, quand nous on fait des annonces et qu'on s'y tient et qu'on accélère sur nos politiques et qu'elles sont claires en fait, et ben, la Chine aussi en fait, elle réagit par rapport à ça. Et donc, bah, voilà, c'est à nous de regarder. Donc, voilà, c'est pour ça que les prévisions, bah, je peux éventuellement faire, mais j'insiste surtout sur
Oui, plutôt quels sont les mécanismes en jeu, plutôt que effectivement
plutôt voilà, les
comment ça peut
mécanismes
être. Ouais.
dont nous on dispose en fait pour faire que des projections optimistes puissent se réaliser.
Merci beaucoup, Karim. Un plaisir comme toujours. Enfin, là, on a été calme, mine de rien. Parfois, on se parle avec plus de, comment dire, plus de pas de véhémence, de controverse, voilà. Non, pas de véhémence. Non, c'est chouette. Merci pour ce témoignage et pour toutes les analyses qui ont suivi. Je te dis à bientôt.
Ok, merci Cyrus. Un plaisir toujours d'être avec toi. Ciao.